Chapitre 15. Des parents anglais. J'ai écrit à Mère Barberin que son mari était mort. Je l'ai fait avec ménagement, car ils avaient vécu longtemps ensemble et elle avait de l'affection pour lui. J'ai donné mon adresse à l'hôtel du Cantal. 4 jours plus tard, Mère Barberin me répondait par l'intermédiaire du curé, car elle ne savait ni lire ni écrire. L'hôpital Saint-Antoine lui avait fait parvenir une lettre écrite par son mari, juste avant sa mort. Elle me l'envoyait, car cela me concernait. Le cœur serré, j'ai lu ces mots. « Ma chère femme, je suis si malade que je crois que c'est fini. Si je meurs, tu écriras à Grethen Galley, Green Square, à Londres. Ce sont les notaires chargés de retrouver Rémi. Tu leur diras que toi seul as de ces nouvelles et tu te feras payer. Cet argent te servira pour ta vieillesse. Rémi a été confié à un dénommé Aquin, actuellement à la prison de Clichy. Fais écrire toutes tes lettres par monsieur le curé. Je t'embrasse une dernière fois. Barberin. » Mathia, à qui je venais de faire lire la lettre, s'est exclamé « Alors tes parents sont anglais, en route pour Londres !» J'étais anglais, comme Arthur et Madame Milligan. En 2 minutes, nos sacs étaient faits. Mathia voulait être de l'aventure, d'autant plus qu'il parlait un peu anglais. C'était mon ami, rien ne nous séparerait, et surtout pas une famille anglaise. Nous avons mis 8 jours pour atteindre Boulogne. Nous avons donné plusieurs représentations pour nous nourrir en chemin et payer la traversée. Le voyage en bateau n'a pas ressemblé à celui sur le Cygne, car la mer n'est pas un canal. Le bateau s'enfonçait, puis se relevait dans la mer. Et ce n'est qu'au matin, quand il est entré dans la Tamise, qu'il a glissé doucement. La Garonne m'avait étonné, mais la Tamise m'a émerveillé, tellement il y avait de voiles et de bateaux. Sur le port, un marin nous a indiqué le chemin jusqu'à Green Square. Nous avons pris des rues qui suivent le fleuve. Enfin, sur une place sombre, nous avons lu sur une plaque en cuivre « Grethen Galley ». Mon cœur battait très fort. Dans le bureau, le nom de Barberin a fait de l'effet dès que Mathia l'a prononcé. On nous a aussitôt introduit dans une pièce pleine de livres, où un homme, portant une perruque, nous a parlé en français. « Lequel d'entre vous, Rémi ?» Je me suis avancé, et l'homme m'a posé plusieurs questions. J'ai raconté la mort de Barberin et comment j'étais arrivé jusqu'à Londres. Il prenait des notes. À la fin, j'ai demandé « Ma famille habite donc l'Angleterre ?»« Tout à fait. » « Et j'ai un père ?»« Bien sûr. » « Et même une mère, des frères et des sœurs. » « Vous vous appelez Driscoll. C'est le nom de votre père. » Je l'aurais embrassé, mais il a ordonné à un employé de me conduire dans ma famille. Et nous sommes partis immédiatement. Nous avancions dans le brouillard et il m'a semblé que des maisons étaient effondrées. Nous nous sommes arrêtés dans une cour, la Red Lion Court. Le clerc a frappé à la porte d'un hangar. Je ne lâchais pas la main de Mathia qui serrait la mienne. On nous a ouvert et nous sommes entrés dans une vaste pièce. Dans un fauteuil, devant le feu, était assis un vieillard à barbe blanche. En face, à une table, il y avait un homme d'une 40aine d'années, le visage intelligent, mais l'air dur. Une femme plus jeune était à ses côtés. Elle semblait ne rien regarder. Il y avait aussi 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, tous blonds, de 12 à 3 ans environ. Je me suis présenté et en insistant sur notre amitié, j'ai ensuite présenté Mattia. L'homme s'est approché.
« Eh bien, embrasse-moi, je suis ton père !»
J'ai cru que j'allais ressentir quelque chose de fort, mais il ne s'est rien passé de la sorte.
« Voici ton grand-père, ta mère, tes frères et sœurs. »
La femme s'est laissée embrasser, sans m'embrasser à son tour.
« Serre la main de ton grand-père !»
Je lui ai serré la main, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Quand je me suis approché de la plus petite, elle m'a repoussé, car elle caressait Capi.
« Viens près du feu. Je vais te raconter pourquoi nous ne t'avons retrouvé que maintenant. »
Je me suis assis à la place qu'il m'indiquait.
« Tu es notre fils aîné, et tu es né un an après notre mariage. »
Quand j'ai épousé ta mère, une autre jeune fille croyait que j'allais l'épouser.
Pour se venger, quand tu es né, elle t'a enlevé et emmené jusqu'en France, où elle t'a abandonné.
Nous t'avons cherché vainement, sans jamais penser à la France.
Il y a 3 ans, cette femme est tombée très malade, et avant de mourir, elle a raconté son horrible crime.
Je me suis alors mis en contact avec le commissariat du quartier où elle t'avait abandonné.
J'ai retrouvé Barberin. Je suis vendeur ambulant en Angleterre. Il m'était difficile de partir à ta recherche. C'est pourquoi j'ai payé Barberin pour te retrouver. Voici comment nous t'avons retrouvé.
Ainsi, les beaux vêtements avaient menti. Je n'étais pas le fils d'une riche famille. Qu'importe, après tout, j'avais surtout besoin d'affection. Pendant ce temps, les enfants avaient mis le couvert et nous nous sommes mis à table. Mes frères et sœurs mangeaient avec leurs doigts. Mon grand-père ne s'occupait que de son assiette, la faisant remplir dès qu'elle était vide. Le repas fini, mon père nous a conduits dans une remise à côté du hangar. Il y avait 2 grandes voitures pour vendeurs ambulants. Dans l'une d'elles, étaient aménagés 2 lits superposés.
« Voilà vos lits. Dormez bien !»
Ainsi s'est passée mon arrivée dans la famille Driscoll, ma famille. Mattia et moi, nous ne disions rien. Je me retournais dans mon lit, sans pouvoir dormir. Les heures s'écoulaient, quand soudain, j'ai entendu un bruit. Capi allait gronder. Je lui ai mis la main sur le museau pour l'en empêcher. Et j'ai regardé par un trou dans la paroi de la voiture. Mon père ouvrait la porte de la remise à 2 hommes portant 2 énormes sacs. Ils les ont aussitôt vidés. C'étaient des vêtements que mon père a examinés soigneusement pendant que ma mère, qui l'avait rejoint, enlevait les étiquettes sur chacun d'eux. Après avoir terminé, ils ont tout remis dans les sacs. Mon père a alors ouvert une trappe dans le plancher par où il est descendu avec les sacs. Quand il est remonté, il a refermé la trappe et l'a soigneusement recouverte de paille. Personne ne pouvait plus voir qu'il y avait une trappe là. Puis tout le monde est parti. Les questions que je me posais n'étaient pas pour me rassurer. Qui étaient ces gens pour venir en pleine nuit? Pourquoi ma mère enlevait-elle les étiquettes de tous les vêtements? Pourquoi cacher ensuite toutes ces marchandises? Une peur étrange me gagnait. Au matin, le grand-père nous a informé que mes parents étaient absents pour la journée. J'ai entraîné Mattia dehors. Je voulais lui parler. Mais lui aussi avait tout vu. Et son jugement était catégorique. Les marchandises étaient volées et toute cette activité était malhonnête. « Partons, Rémi. Je ne crois pas que cette famille soit la tienne. Pourtant, tu as entendu le récit de mon père. Oui, mais tu ne ressembles à aucun de tes frères et sœurs. Et comment une famille aussi pauvre a-t-elle pu dépenser autant d'argent pour retrouver un enfant ? Écris à ta nourrice. Demande-lui de te décrire exactement les vêtements que tu portais quand tu as été abandonné. Pour moi, tu n'es pas un Driscoll, mais tant que tu voudras rester à Londres, je resterai avec toi.